Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Bonjour et bienvenue dans Coulisses politiques avec Henri Vernet. Cette semaine, nous revenons sur le drame Liana, du prénom de cette fillette dont la mort a bouleversé le pays et provoqué une vague d'émotions bien au-delà du seul fait divers. Très vite, les questions se sont déplacées. Comment les alertes ont-elles pu ne pas être entendues? Les institutions ont-elles failli? La justice dispose-t-elle des moyens nécessaires? Et pourquoi cette affaire est devenue en quelques jours un sujet politique et sociétal majeur? Le rapport d'inspection a été remis lundi dernier au Premier ministre Sébastien Lecornu. Le gouvernement français est sous pression dans cette affaire. Nous allons justement nous intéresser aux réactions du gouvernement, aux propositions avancées par les différents camps politiques, au débat sur la protection des enfants, aussi à la question de la prescription et à la fameuse loi intégrale demandée par des parlementaires. Henri Vernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste politique, vous êtes écrivain, vous allez décrypter avec nous les conséquences politiques et sociétales de cette affaire. Au cours de cette émission, nous entendrons aussi les réactions de Sylvain Maillard, député Renaissance, ainsi que de Nicolas Dupont-Aignan, candidat déclaré à l'élection présidentielle, président du mouvement Debout la France. Henri Vernet, avant d'entrer dans le détail des propositions, des polémique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment une affaire judiciaire, cette affaire judiciaire, soit entrée en quelques jours, soit devenue en quelques jours une affaire de politique nationale et peut-être même au-delà?
C'est Sébastien Lecornu lui-même, le Premier ministre, qui a dit que c'est plus qu'un fait divers, c'était un fait de société. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que l'émotion considérable qui a été soulevée dans le pays par ce drame, avec ce scénario qui à chaque fois, malheureusement, se répète, je dis à chaque fois, parce qu'il y en a eu des drames, des meurtres et violences sexuelles sur enfants terribles de cet ordre-là. Mais là, à chaque fois, ça se répète. C'est-à-dire qu'on est avec la famille, dans l'attente, dans la recherche. On ne sait pas si on va retrouver l'enfant vivant ou mort et comment retrouver son corps ou comment savoir ce qui s'est passé. Bref, on vit cela. Il y a vraiment une émotion qui est partagée par le pays et ça devient une affaire nationale et politique, parce que au-delà de ce choc bien légitime, il y a en effet ce qui apparaît très vite comme des défaillances plus que probables.
Et c'est pour ça que cette affaire a vite quitté la rubrique judiciaire pour entrer dans le champ politique.
Absolument. Un fait de société et un fait de politique, parce que les politiques, dans ces cas-là, il y a toujours quelque part une responsabilité.
Est-ce que l'exécutif a été à la hauteur dès le début de cette affaire?
Très vite quand même. Les réactions, à commencer par celle du chef de l'État, de Emmanuel Macron, ça a été de dire, attention, je ne veux pas qu'on me parle de moyens insuffisant. En quelque sorte, si défaillance il y a eu, et ça, c'est un thème qui va être développé tout de suite par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui immédiatement va parler de faute, enfin de défaillance en tout cas, donc individuelle de la part de l'appareil judiciaire, de la part des magistrats, et il va même très vite, Gérald Darmanin, s'excuser au nom de l'État. Et ça, c'est rarissime, un ministre qui présente ses excuses. Alors, est-ce que c'est une bonne réaction ou pas? C'est quand même c'est une manière très directe de mettre en cause les magistrats, de parler de défaillance avant même, on est donc vraiment dans les premiers jours de ce drame atroce, avant même la moindre enquête administrative d'inspection, il attribue ainsi, c'est une façon de se défausser sur les magistrats, quelque part sur les enquêteurs, mais qui ne relèvent plus de son domaine puisqu'il n'est plus à l'intérieur, il n'est plus chef des policiers, il est à la tête de la justice, et donc cette manière de se défausser, non, elle n'est pas forcément à la hauteur.
Les députés ont bien entendu réagi, la présidente de l'Assemblée nationale plaide pour une loi intégrale. C'est une proposition d'une députée socialiste. Le député Renaissance, Sylvain Maillard, il est favorable. Alors, question tout simplement, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque une loi intégrale? Je vous propose d'écouter Sylvain Maillard.
Il y a cette proposition de loi intégrale que j'ai co-signée également, qui permet de voir l'ensemble des aspects qu'on peut améliorer. Il y a des points sur lesquels on peut améliorer. Il y a des choses qui sont déjà mises en place qu'il faudra faire en sorte de toiletter dans cette loi intégrale, mais qui nous semble traiter l'intégralité du spectre de la protection de l'enfant sur tous ces aspects. Et ça nous semble important. Et beaucoup de députés, d'ailleurs le Premier ministre l'a entendu, disent qu'il nous faut absolument travailler pour avoir un cadre de loi qui nous permette de protéger nos enfants. C'est ça la priorité. Ce n'est pas de dire qui est responsable politiquement. On sait très bien qu'il y a eu un dysfonctionnement dans l'affaire Liana, qui est très clair autour de Hoche. Est-ce que c'est la gendarmerie ? On verra, on attend le rapport définitif. Il y a eu un dysfonctionnement majeur qui fait que le dossier s'est perdu, n'avançait plus, et qu'on a laissé un pédophile, au fond, sans être interrogé par la police ou la gendarmerie, faire ce qu'il a fait. Et c'est ça qui nous plonge dans l'effroi. C'est cette désorganisation, en tout cas d'un point de vue local. Mais plus généralement, il faut qu'on puisse répondre à la protection des enfants. Il faut que nous entendions la voix des enfants, leur dire que nous les croyons et que nous les entendions. Nous ne les entendons pas suffisamment.
Nous ne les entendons pas suffisamment. Dites-vous justement comment expliquer le fait que plus de 90% des plaintes liées aux abus sexuels sur des enfants ne sont pas suivi des faits. C'est ce qu'indique le juge des enfants, le juge Édouard Durand, l'ancien président de la Civise. Aujourd'hui, cela prouve que les enfants ne sont pas écoutés.
Exactement. C'est parole contre parole. Et dans parole contre parole, la voix de l'enfant n'est pas entendue. Et donc, il faut faire en sorte d'améliorer le système. Mais ce n'est pas évident parce que, y compris dans la magistrature, les juges qui veulent s'occuper de ces matières particulière mais extrêmement difficile. En fait, ils sont peu à vouloir faire ça. Vous imaginez bien, vous rentrez le soir avec ces témoignages que vous entendez toute la journée qui sont extrêmement durs à porter. Et donc, c'est pareil pour les gendarmes, c'est pareil pour les policiers. La parole de l'enfant dans la dureté de ce que l'on entend est aussi quelque chose qui est peu attractif. Il faut le dire, la vérité. Peu attractif, donc les postes sont ouverts. Mais on aurait du mal à recruter parce que c'est pas suffisamment mis sur le devant de la scène. J'espère que cette affaire, dans le malheur que traverse cette famille de Liana, j'espère que dans ce malheur naîtra peut-être une sorte de prise de conscience généralisée que, en fait, c'est notre devoir à nous, adultes, d'entendre les enfants et d'avoir une magistrature à la hauteur, d'avoir des policiers, des gendarmes tous à la hauteur, d'avoir une écoute de la société civile à la hauteur, de faire en sorte que nos enfants, on vous croit et on vous écoute et votre parole doit être entendue.
Le député Renaissance Sylvain Maillard, cette proposition de loi intégrale, est-ce qu'elle reflète une prise de conscience généralisée comme le souhaite Sylvain Maillard ?
Oui, on peut le dire. D'abord parce qu'elle émane beaucoup des associations elles-mêmes de défense contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ça regroupe ces deux thématiques qui, d'ailleurs, il faut toujours le rappeler. La protection contre ces violences-là, c'était deux causes nationales aux yeux d'Emmanuel Macron dans son premier comme dans son second mandat. Donc on voit à quel point on reste un petit peu loin en matière de réalisation. Oui, ça regroupe beaucoup de choses. L'intérêt de cette proposition donc de loi dite intégrale, c'est que ça amène à traiter tous les aspects, à faire travailler ensemble tous les domaines qui sont concernés par la lutte, mais à la fois en matière de prévention, en matière de traitement judiciaire et puis en matière d'accompagnement des victimes.
Avec notamment des juridictions bien spécialisées, ça c'est très important.
Exactement, des juridictions et des équipes. Mmh. Des équipes d'enquêteurs donc au sein de la police, au sein de la gendarmerie, qui seraient donc vraiment dédiées aux mineurs, aux enfants. Également, alors évidemment, avec un pendant dans le monde judiciaire, c'est-à-dire au niveau, alors peut-être pas de chaque parquet, mais en tout cas des principaux parquets, là encore, des magistrats qui seraient vraiment consacrés à cette tâche-là. En fait, c'est quelque chose qui existe de manière plus ou moins achevée dans certains pays scandinaves, c'est notamment l'Islande qui a montré le chemin, je crois, dès la fin des années 90, avec ce qu'ils appellent les maisons de l'enfance, où toute la chaîne est mobilisée. Alors, il est vrai que l'Islande, évidemment, c'est un petit pays, donc c'est plus facile, petit pays, je veux dire, au sens démographique, c'est également un modèle qui a été mis en place en Espagne avec certains résultats. Et donc, comme vous l'avez dit, donc il y a ce traitement au niveau donc des magistrats et des enquêteurs police-gendarmerie. C'est également l'alerte, la sensibilisation particulière dans les milieux éducatifs, dans tout ce qui est accompagnant, justement le périscolaire, dont il a été beaucoup question avec ce scandale de pédocriminalité à Paris, au sein de la municipalité parisienne. Donc tout cela, ça montre à quel point vraiment le besoin, les besoins sont énormes et
urgents. Les besoins sont
urgents.
Énormes, hein, vous le soulignez, quand le président de la République affirme que ce n'est pas une question de moyens. Et pourtant, cette affaire a permis de soulever le couvercle. Hein. Il y a 70 000 dossiers en souffrance. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, demande aux juristes de traiter ces dossiers d'ici la mi-juillet, ce qui paraît particulièrement difficile. Mais cette affaire, elle met en lumière une situation dramatique aujourd'hui en France.
Ah oui, non, mais je crois d'ailleurs qu'en termes de, comment dire, du nombre de magistrats, des moyens de la justice dont vous parlez, on est classé 43e sur 44, donc vous savez, dans le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire c'est à la fois l'Union européenne, mais quelques autres pays, en nombre d'enquêteurs, en nombre de procureurs, donc qui sont chargés de tous les dossiers, mais singulièrement de cela, on est à un rapport d'infériorité par rapport à un pays comparable comme l'Allemagne, qui est assez criant. Donc oui, bien sûr, des nombres, comment dire, des moyens vraiment en berne. C'est l'un des prédécesseurs hein, de l'actuel garde des Sceaux, donc de Darmanin, qui avait parlé de clochardisation de la justice. C'était Urvoas. Hein,
Jean-Jacques Urvoas.
Absolument.
Ouais.
Donc déjà sous le mandat de François Hollande. Donc tout cela ne s'est pas vraiment arrangé, même si, et c'est en cela que j'ai parlé de défausse de la part d'un Macron, de la part d'un Darmanin, c'est-à-dire qu'eux disent « Ah oui, mais regardez, depuis 2017, les moyens de la justice ont augmenté », ce qui est factuellement vrai. Le budget de la justice est passé de 7 milliards en 2017 à quelques 11 milliards. Là, en année pleine, c'est ce qu'ils devraient atteindre en 2027. Mais sauf que ça reste notoirement insuffisant et que peut-être que ça n'a pas été ciblé. En tout cas, c'est ce que reprochent les magistrats. Ça n'a pas été ciblé de manière vraiment satisfaisante. Donc bien sûr qu'il y a là un problème de moyens. Et que ce moyen, il faut le traiter. D'ailleurs, la loi intégrale dont on vient de parler, il faut reconnaître...
C'est une forme de réorganisation. Ça, c'est
pas seulement de la justice,
important.
Mais au-delà.
Voilà, exactement.
Simplement, si elle était votée et donc appliquée, il est vrai qu'elle aurait un coût qui serait de l'ordre de 3 milliards d'euros par an.
Gérald Darmanin, exclu de démissionner... Il pense, bien entendu, à 2027, même s'il n'est pas encore déclaré candidat. Est-ce qu'il sort... affaibli.
Ah oui, il est considérablement affaibli. Hein. D'ailleurs, il refuse de démission. Enfin, lui, il a totalement, dès le début, écarté toute démission. Bon, ce qui, d'un côté, ça peut se comprendre, parce que ça ne change rien, sa démission, hein, sur un plan factuel. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la justice est indépendante. Hein. Donc, le ministre qui est là, il n'a pas les mêmes pouvoirs sur le monde de la magistrature que quand il était place Beauvau, le pouvoir direct qu'il avait sur la police dans le pays. Quand on dit premier flic de France, c'est pas un hasard. Néanmoins, quand vous êtes ministre, vous êtes responsable. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'en France, chez les politiques, le sens des responsabilités, c'est vraiment quelque chose qui existe très, très, très peu. Regardez, le nombre de ministres...
On se souvient de Georgina Dufoy, responsable, mais
pas
coupable. Pas.
En France, un ministre, il ne démissionne pas, sauf si vraiment il est en clash, comme l'avait été Chevènement, sur un objet bien précis, qui était la première guerre du Golfe, désaccord avec Mitterrand. Mais sinon, non, on ne démissionne pas.
Nos enfants ne sont pas protégés, voilà ce que l'on entend aujourd'hui en France. C'est une affaire également qui peut être susceptible de faire émerger les populismes avec des mesures proposées que l'on n'entendait pas ces dernières années. Je pense par exemple aux mesures proposées par un candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan. Il préside debout la France. Je vous propose de l'écouter justement sur ce drame, Liana.
Quant au sommet, le poisson est pourri par la tête. Faut pas s'étonner qu'après, toute la société est une tolérance.
Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites au sommet, le poisson est pourri par la tête ?
Ben je dis que la pédocriminalité, comme le dit d'ailleurs Carl Zéro depuis des années, et personne ne le croyait, il n'y a pas de vraie lutte contre la pédocriminalité dans notre pays.
Mais pourquoi au sommet ?
Ben parce que si au sommet, vous protégez des gens...
Qui protège ?
Eh ben, j'aimerais savoir.
Vous ne savez pas.
Pourquoi la commission d'enquête sur l'affaire Epstein a été refusée ? C'est pas possible qu'on en soit là. Donc, il faut un grand coup de balai partout. Et c'est pourquoi j'ai proposé, symboliquement, je le sais, qu'il y ait un référendum sur la peine de mort. Parce que moi, j'estime qu'une société qui laisse tuer, violer ses enfants est une société qui est indigne.
Vous comprenez que cela puisse heurter fortement les Français. Et il est important également de souligner que la peine de mort abolie lors du premier mandat de François Mitterrand par le ministre de la Justice Robert Badinter, eh bien, cette abolition à l'époque était peu populaire. Parfois, l'État ne doit pas aller forcément dans la position des citoyens. C'est aussi important et c'est ce qui peut différencier d'ailleurs le populisme de l'action républicaine.
La justice, elle est rendue au nom du peuple français. L'abolition de la peine de mort correspondait à une époque. Quand on voit ce qui est arrivé avec le terrorisme, ce qui arrive avec la pédocriminalité, ce qui est abominable, c'est que des enfants disparaissent. Ce qui est abominable, c'est que des enfants soient tués. Ce qui est abominable, c'est que les tueurs soient en liberté ou qu'ils aient des peines dérisoires. Donc maintenant, ça suffit. Moi, je dis, d'ailleurs, 68% des Français me rejoignent, je dis qu'à un moment, c'est pas du populisme, c'est de la démocratie. Et j'en ai assez.
Parce que la majorité a toujours raison.
Mais la majorité en démocratie a raison. Mais c'est la démocratie. Et il y a un moment, ça ne doit pas être sous le coup de l'émotion, ça ne doit pas être n'importe comment, mais qu'on ait un débat en France sur le fonctionnement de la justice, les moyens qu'on lui donne, l'échelle des peines, et qu'à un moment les Français décident, comme moi je le propose, qu'on affiche clairement que pour les crimes d'enfants et le terrorisme, eh bien, la peine de mort est possible. Ça existe aux États-Unis, ça existe au Japon, ça existe dans tous les pays du monde. Je vois pas pourquoi ça serait un interdit. Ça veut pas dire, soyons précis, que c'est la seule réponse, parce que ce serait illusoire.
On serait d'ailleurs le seul pays européen à rétablir cela. La peine de mort, c'est aussi une conception de la justice. La justice qui ne doit pas donner la mort, qui ne doit pas se mettre au même niveau que les meurtriers.
Et bien, en attendant, les meurtriers d'enfants ne méritent que la mort.
Et voilà, c'était Nicolas Dupont-Aignan, le président de Boula France. Il brigue la présidence de la République. On verra s'il aura ses 500 signatures. Henri Vernet, ce type de propos, ça ne vous étonne pas ?
Ça ne m'étonne pas de la part d'un Nicolas Dupont-Aignan qui brigue, comme vous le dites, la présidence depuis maintenant des lustres et qui, en gros, ne sait plus trop quoi faire pour se faire remarquer et se démarquer, notamment dans un champ souverainiste et de droite extrême, enfin nationaliste en tout cas, où il est très concurrencé, il est largué pour tout dire. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'il dit n'a pas d'intérêt. Bien sûr qu'il y a des parties intéressantes. Moi, là, ce que je trouve très gênant, vous parlez de populisme. Moi aussi, je me méfie un peu de ce mot parce qu'en plus, c'est pas forcément péjoratif, hein, populisme. Si c'est intéressé au peuple, ça peut aussi avoir sa vertu. Donc, est-ce qu'on parle de populisme? Est-ce qu'on parle de démagogie? Moi, je trouve que ce qui n'est pas acceptable, c'est dans ses propos, c'est plutôt le début de sa réponse. C'est-à-dire cette façon de jeter comme ça une suspicion, en gros, sur il y aurait des grands réseaux pédocriminels. Vous savez, un petit peu à la QAnon, hein, ce phénomène qu'il y avait eu aux États-Unis il y a quelques années, où en gros, alors bien sûr que malheureusement, quand il y a des affaires telles que celle de Epstein, évidemment, ça ne fait que renforcer ses soupçons. Ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un responsable politique, en tout cas quelqu'un qui brigue à un mandat, enfin au mandat suprême, dit ça, bah, dans ce cas-là, il faut venir avec ses preuves. Il faut venir avec des éléments.
Il ne cite aucun nom, et ça, c'est un élément très, très
complètement
important.
Voilà. Si on s'intéresse un peu au fond, alors déjà, agiter la peine de mort, il me semble que dans le champ politique, il me semble qu'il est le seul à le faire. C'est vrai qu'on entend en sous-main, on entend bruisser, hein, forcément, cette demande. C'est vrai qu'elle revient assez périodiquement, mais regardez, à la dernière campagne présidentielle en 2022, elle avait été écartée par Marine Le Pen elle-même à un moment.
Qui à un moment, RN... elle prenait un référendum pour la
Alors,
peine
voilà,
de mort, et voilà,
exactement, oui, parce que pour avoir un tel rétablissement, il faudrait changer beaucoup de choses en France, puisque la Constitution ne le permet pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment s'inscrire dans une réforme, si on peut appeler ça une réforme, extrêmement, extrêmement compliquée. Mais justement, Marine Le Pen elle-même y avait renoncé. J'ai pas l'impression là que ce soit elle ou Bardella, le RN dans son ensemble, reviennent sur ce terrain. Mais c'est vrai qu'il y a eu florès, hein, de propositions en matière donc de répression de la part de nombreux partis, de la part de nombreux candidats. Bah, par exemple, un Bruno Retailleau pour LR qui lui s'intéresse à la fois aux magistrats eux-mêmes en voulant instaurer une espèce de cour disciplinaire des magistrats, qui seraient plus durs dans les sanctions, en quelque sorte qui laisseraient ce monde un peu moins, alors non pas autogéré, ils ne le sont pas, mais quand même moins se protégeant soi-même. Il y a également, alors, lui-même a évoqué pourquoi pas la castration chimique, d'autres l'ont fait, hein. Et puis le Premier ministre, Sébastien Lecornu lui-même, là maintenant, il évoque une perpétuité incompressible, c'est-à-dire une véritable perpétuité.
Voilà, vous dites, hein, même, pour... même au centre, et c'est le cas d'ailleurs du député Renaissance Sylvain Maillard que nous écoutons.
Moi, je suis contre la peine de mort. C'est philosophique et je suis absolument contre son rétablissement, quelle que soit la dureté des crimes. Et Dieu sait qu'il y a des crimes horribles en France, comme partout ailleurs, mais on les voit et on y est parfois confronté. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'un pédocriminel qui a violé peut-être plusieurs fois est réhabilitable? C'est une vraie question qui se pose. Et moi, je suis pour l'enfermement, y compris à vie, pour ceux où on estime qu'ils ne sont pas, il n'est pas possible de tout simplement les soigner. Il faut aussi que si on veut protéger nos enfants, il faut vraiment accepter de protéger nos enfants.
C'est important ce que vous dites, hein, l'enfermement à vie dans le milieu carcéral ou alors dans le milieu carcéral et médical?
Il ne doit plus être au contact des enfants, il ne doit plus être au contact de la société au sens large. Tant que vous n'êtes pas, vous êtes un danger. Et la pédocriminalité est un danger et on a énormément du mal à la soigner. Pour certains d'entre eux, on ne peut pas les soigner, on le sait parfaitement. Il est hors de question de relâcher parce qu'ils recommettront les mêmes crimes. Nous le savons parfaitement. Donc ça, je suis pour une peine d'enfermement à vie là-dessus.
Cette réponse de Sylvain Maillard, Henri Vernet, c'est une manière de répondre à la colère populaire?
Oui, dans une certaine mesure, parce que dans des cas pareils, c'est vrai qu'avec l'émotion que ça suscite, on sait, hein, en France, souvent la réponse quand il y a un fait divers comme ça, traumatisant pour la société, et donc gênant pour la politique, on a tendance à dire, bah, dans ce cas-là, vite une loi. Hein. C'était notamment la méthode de Nicolas Sarkozy. Un fait divers, une tragédie, une loi. Bon, alors ça marche pas que comme ça, mais lui-même, il a l'honnêteté de le reconnaître. En réalité, parmi donc les propositions, l'idée donc de cette, comment dire, de cette perpétuité réelle, dont évidemment Liana relèvera. Eh bien, une fois que vous êtes au bout de la peine qui a été prononcée, de toute façon, elle est réexaminée. En l'occurrence, je crois que c'est une trentaine d'années, et de toute façon, on se penchera sur votre
cas. Voilà, cette perpétuité réelle, elle n'existe pas au tout début, lors du premier jugement.
Mais elle est au cas par cas. C'est en cela que je dis que la justice n'est pas aveugle, que les choses s'appliquent au cas par cas selon ce que vous avez fait.
Mais Henri Vernet, est-ce que finalement, on ne se trompe pas de réponse et de sujet quand vous voyez que la très grande majorité des enfants, alors eux ne portent pas plainte, ce sont leurs parents, les dossiers n'aboutissent pas. Ce n'est pas une question de peine de prison ou de peine de mort.
Mais complètement, mais bien sûr. Alors bon, là on en revient à la proposition donc, de cette loi dite intégrale dont on parlait, qui justement prend en compte d'abord assurer à chacun d'avoir une meilleure écoute de la parole des enfants, une meilleure évaluation. C'est vraiment tout cela qu'il faut développer. Il faut développer cette prévention-là. Les moyens, bien sûr, vous l'avez dit, les 70 000 plaintes-là qui sont alors pas traitées, parce que ça, c'est pas vrai. Ce qu'a demandé Gérald Darmanin il y a deux semaines, c'est tout simplement impossible d'avoir 70 000 dossiers traités d'ici le 14 juillet. C'est matériellement impossible. Hein, les magistrats, ils vous l'ont montré, parce que d'abord, il y a quelques magistrats dans chaque circonscription, si je puis dire, qui sont affectés à ce genre de tâches. Ça veut dire, il y en a un qui a fait le calcul, enfin, un syndicat a fait le calcul, ça veut dire qu'il leur faudrait 800 heures par mois. Hein, ça veut dire qu'ils travailleraient jour et nuit et surtout, ils ne s'occuperaient que de ça, que ce soit les magistrats comme les enquêteurs, donc policiers ou gendarmes qui seraient concernés par ces enquêtes. Ça veut dire qu'ils ne feraient que ça pendant un mois, sans s'occuper des vols, des crimes de tout genre. Enfin, bon, bref, on sait que tout ça n'est pas possible. Non, l'idée, c'est, disons, de voir parmi ces 70 000 dossiers lesquels sont vraiment urgents, lesquels concernent des personnes surtout qui sont encore mineures. Donc, il faut vraiment protéger. Parce que là-dedans, vous avez aussi des gens, bah justement, ça a été évoqué d'ailleurs dans le son, des gens qui portent plainte 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc là, la protection à l'égard de ces victimes-là, elle est moins urgente et impérative que celle pour les mineurs. Par exemple, le cas de la petite Rosa qu'on a évoqué, fillette de 10 ans, violée donc par Jérôme Barella, le suspect, donc, enfin l'accusé dans l'affaire Liana, et la, la plainte de sa maman est restée sans suite. Donc c'est ça qu'il faut traiter, c'est donner les moyens d'enquêter, parce qu'il y a un autre chiffre qui est frappant, ce sont les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, bien souvent d'ailleurs provenant de leur entourage immédiat, c'est-à-dire de leur famille. C'est tout ça à quoi il faut désormais s'attaquer de manière bien plus efficace.
Et on voit qu'il existe aujourd'hui une forme d'impunité. Les prédateurs, si je puis dire, la très grande majorité d'entre eux n'est pas jugée.
Normalement, ils devraient l'être. C'est pour ça que dans ce drame, Liana, il faut en effet, bien sûr, il y a les moyens dont on a parlé, mais c'est vrai qu'il faut aussi identifier où se sont situées donc les failles, pour le coup, individuelles, professionnelles. C'est-à-dire, elles peuvent concerner donc aussi bien les magistrats. Bon, on sait que le parquet de Auch est particulièrement dans le viseur, que la gendarmerie qui avait été quand même saisie malgré tout par ce parquet, c'est-à-dire la gendarmerie de Lectoure dans le Gers, est-ce qu'elle n'a pas beaucoup traîné? Enfin si, visiblement oui. Donc là, c'est cela qui fait l'objet des rapports. Il y a deux enquêtes qui sont menées, l'une au sein de la justice, donc par une enquête interne à la justice, une autre au sein de la gendarmerie pour identifier ces failles. Et ça, il faut vraiment, une fois qu'elles auront été repérées, prendre des mesures et montrer à quel point, non, ça peut, quand une plainte est là, quand l'écoute est suffisamment affinée pour détecter que la victime, est totalement, ce qu'elle raconte est vrai et que donc il faut enquêter et d'urgence prendre des mesures, à commencer surtout par auditionner l'auteur présumé. C'est vrai que ce qui est concernant et ce qui exaspère le public dans cette histoire-là, c'est que le suspect, donc M. Barella, il n'avait même pas été entendu par les policiers.
Il y a des rassemblements chaque lundi, notamment à Paris, place Vendôme, plusieurs dizaines, centaines de personnes se réunissent depuis plusieurs semaines maintenant. Un tel mouvement populaire lié à des crimes sexuels, est-ce que cela a déjà été vu en France et est-ce que cela peut durer ?
Alors, un mouvement tel que celui-là, non, j'en ai pas souvenir immédiatement, même s'il faut quand même il faut voir, par exemple, que la cause sur les violences sexuelles, sexistes, enfin, tout ce qui a correspondu un petit peu au mouvement MeToo a quand même fait bouger les choses, ça a quand même été assez important.
Alors, et là, on parle des enfants, c'est la différence.
Exactement, c'est pour ça que je fais cette analogie. S'agissant des enfants, non, il y a souvent, alors malheureusement, il y en a eu beaucoup des affaires terribles comme ça, de pédocriminalité et meurtrière. Et à chaque fois, l'émoi est quand même très important. Là, c'est vrai que la durée, encore une fois, cette apparition de failles dans l'appareil d'État qui est censé nous protéger, tout cela fait que ce mouvement, il est plus fort que les autres, il est plus général, il est plus massif, sans doute sera-t-il durable, c'est possible, mais surtout il y a une évidence, c'est que ça doit vraiment être un débat. Et il se trouve qu'il y a cette campagne présidentielle, donc non pas un débat démagogique avec les idées jusqu'au boutiste des uns des autres, mais un véritable débat, les moyens de la justice d'ailleurs, tout simplement. Il se trouve que là, je parlais tout à l'heure du budget, néanmoins, il y avait quelques centaines de millions d'euros qui avaient été gelés. Là, en début d'année, face à la crise liée à la guerre d'Iran, je crois que là, le gouvernement s'est empressé de dire que non, finalement, on va les dégeler. Et donc, mais de toute façon, restera ce débat-là. Comment on aborde ce thème de la protection de l'enfance? Attention, on ne part pas de zéro, il ne faut pas exagérer non plus, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Vous l'avez rappelé, ne serait-ce que cette parole qui s'est libérée, qui induit aussi un nombre de plaintes et de dossiers considérablement supérieurs aux anciennes années. Mais en tout cas, il faut vraiment adresser cette question-là, et c'est évidemment un des thèmes importants de la présidentielle, de la campagne qui s'est déjà ouverte.
Ce drame Liana qui aura permis de soulever le couvercle, si je puis dire. Un grand merci, Henri Bernard.
Merci.
Vous êtes éditorialiste politique, vous êtes aussi écrivain. Merci à vous, chers auditeurs. C'est la fin de votre émission Coulisses politiques. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.